l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Eh bien, bonjour à tous. Nous revoilà dans ces studios magnifiques de la radio FM+, qui nous accueille toutes les semaines pour donner les échos de la solidarité internationale. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être avec mon compagnon de radio, Michel. Donc, nous sommes tous les deux aujourd'hui et nous avons trouvé que c'était important et Michel a pu se libérer, je le remercie. Pour parler d'un sujet qui malheureusement va vous parler à tous, nous sommes là avec donc Mitra, qui est coordinatrice nationale, qui est à Montpellier, qui est montpelliéraine, et qui est coordinatrice nationale du mouvement du collectif Femmes Vie Liberté, qui ça va vous parler sûrement, et on va en reparler. Voilà, et donc nous sommes là pour parler malheureusement des événements qui secouent un petit peu le monde actuel sur ce qui se passe en Iran, entre Israël et l'Iran. Alors, bonjour Michel.
Merci, bonjour.
Voilà, bonne arrivée, comme on dit, au pays de l'homme intègre. Et puis, en tout cas, merci de m'accompagner dans cette aventure, qui est une aventure quand même plutôt émotionnelle.
Émotionnelle aujourd'hui, tout à fait.
Ouais. Et bonjour Mitra.
Bonjour.
Bonne arrivée parmi nous et merci d'être venue. D'être venue nous retrouver, malgré, en ayant pris une disponibilité, je pense, un petit peu par rapport à ton travail. Et merci d'être auprès de nous pour nous éclairer un petit peu, pour nous raconter un peu ce qui se passe actuellement. Mais je souhaitais qu'on commence par parler d'un mouvement qui avait secoué le monde il y a quelque temps, déjà il n'y a pas si longtemps en fait, parce que Mitra, tu vas nous rappeler les dates, un mouvement qui avait bousculé beaucoup et qui avait fait quand même beaucoup de
couler beaucoup d'encre.
Voilà, beaucoup. Ici à Montpellier aussi, on avait quand même été très, très actifs, les Montpelliérains. Ce mouvement donc, qui a débouché sur le nom de Femmes Vie Liberté et qui était occasionné, mais tu vas nous raconter l'histoire. Je compte sur toi, c'est toi la conteuse là. Et on sait que les Perses, les contes persans, c'est réputé.
Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci. Et à toutes. Et je vous remercie beaucoup d'avoir consacré un programme à mon pays, au problème qui existe dans mon pays, bien entendu, depuis 46 ans. Et c'est très important pour nous de l'expliquer parce que tout le monde n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Pourtant, ça fait longtemps qu'il y a des choses qui se passent et c'est bien une piqûre de rappel. C'est très bien, tout je pense. Fait. Vous m'avez parlé de mouvement de soulèvement Femmes Liberté. On l'appelle plutôt en soulèvement. Depuis 16 septembre 2022, une jeune fille au nom de Mahsa Amini a été tuée par la police de mœurs iranienne pour son foulard mal porté. C'était encore, je pense, une de plus, et ça a éclaté.
Une de trop.
Une de trop. Même, c'est ça, plutôt ça le mot, c'est ça. C'était une de trop, et ça, le mouvement a éclaté à partir de ce moment-là. Au début, c'est les filles qui sont commencées à aller dans la rue sans foulard. Ils ont enlevé leur foulard et ils ont contesté. Et après, très vite, les hommes iraniens, les frères, les sœurs, les copains, tout, ils ont commencé à venir juste derrière les femmes et la population ensemble ont commencé à contester. Alors, contester, pas comme ça se dit, c'est un amalgame, disent contre le hijab, non. C'était contester contre l'obligation de porter. On n'est pas du tout, parce que j'en ai entendu souvent de gauche à droite, oui, mais alors ceux qui veulent mettre le hijab, il n'y a aucun problème. On est un pays très paisible, en tout cas le peuple. Le peuple est très paisible. On est très ouverte à toute idéologie. On est les gens très instruits et on veut comprendre celui qui veut porter, il portera, mais on n'accepte pas l'obligation. Ce qui est tout à fait normal, je pense, c'est la base de l'humanité. La base des droits de l'homme, c'est ça. Je reste dans les contextes de pays, je respecte la loi, mais on n'a pas à m'obliger de porter la voile. Et c'est à partir de ça qu'a démarré ce mouvement et ça a pris une ampleur énorme, une ampleur énorme, et c'est là qu'on a commencé des manifestations à l'extérieur de l'Iran. Pourquoi? Parce qu'on voulait être porte-parole des Iraniens qui sont en oppression. Une oppression qui dure depuis 46 ans. Mmh. Et là, à chaque moment, il y avait des mouvements, ils étaient arrêtés, ces mouvements, par arrestation de beaucoup de jeunes et par, bien entendu, pendaison. Mmh. De beaucoup de jeunes, peu importe leur âge, parce qu'on a eu des 14 ans pendus en Iran jusqu'à 30, 40, 45 et plus. Alors, je veux dire, il n'y a pas l'âge qui compte. Encore une autre droit de l'homme qui est bafoué. Et ça, j'insiste là-dessus parce que ça m'a fait rire que maintenant, d'État d'Iran, ils viennent et ils parlent des droits de l'homme. Hein. ça m'a fait rire. Hein. Bon, et là, le mouvement est toujours en activité. Mm-hmm. Bien entendu, au départ, on était trop dans la rue. Un peu partout, dans tous les pays. Personnellement, j'étais en Allemagne, j'étais en Belgique, j'étais devant le tribunal de La Haye. On est allé, tout le monde, je veux dire, tout partout, on s'organisait pour partir. Les Américains, pareil, les Iraniens aux États-Unis, pareil. Et au Canada, pareil, je veux dire, partout, en dehors d'Iran, les Iraniens ont été porteurs de paroles des Iraniens à l'intérieur d'Iran. Parce que par manque de moyens, ils ne peuvent pas s'exprimer et ils ne peuvent pas porter leur voix à l'extérieur d'Iran. Et le modèle a changé maintenant, parce que ça a évolué. On a maintenant porté plutôt sur les réseaux sociaux et différemment, on commence à faire le mouvement, la manière de le présenter, c'est différente. On est maintenant plutôt en négociation avec les États européens, américains, tout. On est en négociation avec eux. Ça fait 3 ans qu'on demande de nommer les gardiens de la révolution en tant qu'organisme terroriste, qu'ils ont jamais voulu l'accepter. Ça fait depuis septembre 2022, on demande de ne plus faire des négociations économiques avec l'Iran, en sachant que c'est le gardien de la révolution, qu'ils ont contrôle 80% de contrôle d'économie d'Iran. Voilà. Toute grosse structure, toute infrastructure iranienne passe sous la main des gardiens de la révolution. Et c'est là qu'on demande. Et tout au début, on a commencé à dire arrêtez ces négociations. On ne demande pas de l'ingérence. On a répété, re-répété, on ne demande pas de l'ingérence, mais mettez cet État en position faible pour que les jeunes notamment, puissent se révolter sans avoir des milliers et des milliers de milices qui viennent de Liban, on le sait bien, qui viennent de Liban, qui viennent de la Syrie, qui viennent de Hamas, qui viennent de Houthi aussi, sans avoir tant de milices qu'ils viennent dans la rue et sans scrupules, ils tirent sur nos enfants, nos jeunes, nos compatriotes. Et là, le mouvement, il est toujours en activité et bien entendu, maintenant, c'est l'histoire de la guerre.
Oui. Alors Michel, c'est vrai que dans ce que dit Mitra, je pense qu'on se rejoint dans le fait qu'on est quand même un peu révolté, parce que Mitra nous a expliqué hein, que ce mouvement, qui est un mouvement très actif, a demandé au gouvernement, aux divers gouvernements occidentaux, de faire un petit peu des remontrances et puis même des représailles économiques. Et on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein, on est d'accord.
Oui, bien sûr.
De la part de nos gouvernements.
Bien sûr, actuellement, rien ne se passe.
Rien ne se passe.
Je pense que les gens, les instances gouvernementales ont relativement peur, justement, de ce qui se prépare, de ce qui s'est préparé et qui maintenant risque d'empirer, hein, une situation qui peut être devenir très tendue et tomber dans une guerre vraiment très très
Moyen-Orient.
Voilà.
Le Moyen-Orient, oui.
Pour le Moyen-Orient, oui, mais ça pourrait être une guerre avec des armements importants, puisque le gouvernement iranien avait quand même déjà pas mal de moyens d'armes. Voilà. Mmh. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a peur également, ce dont on a peur. Et puis, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer là, dans le passé rapide.
Exactement.
Et l'ironie du sort, l'ironie, je trouve, moi, par rapport à tout ça, c'est qu'à force de ne pas bouger, finalement, on se retrouve confronté maintenant à un État qui bouge, mais d'une façon qui est quand même assez, assez surprenante, assez hallucinante et assez angoissante, comme le dit Michel. Hein. C'est-à-dire que du coup, voilà, il y a l'État d'Israël qui se met à intervenir, alors qu'il s'agissait au départ de demandes. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire combien de fois, par des Iraniens et par des responsables politiques ou quoi, non, normalement, il y a un gouvernement en Iran, qui est un gouvernement, qui est un État, c'est un État religieux, et ce n'est pas du tout le peuple iranien. Le peuple iranien, c'est une chose différente. Et pour l'instant, là, ben, on se trouve, comme dit Michel, dans une situation qui commence un peu à affoler tout le monde, alors que jusque-là, pas grand monde a bougé.
D'avoir bougé, et sachez que 80%, bon, il y en a qui disent, oui, mais c'est votre statistique à vous, on dit 70% de peuple iranien ne sont pas avec ce gouvernement. Pourquoi ils ne bougent pas? Parce qu'ils n'ont aucun moyen de se défendre, et comme je vous ai dit, l'État d'Iran a appauvri le pays depuis qu'il est sur le gouvernement, et il gouverne le pays 46 ans, il appauvrit le pays, et l'argent, parce que l'Iran, c'est un pays très, très riche. Autre jour, je disais à quelqu'un, il m'a dit, ah bon? Alors, j'étais étonnée que la personne ne sait pas la richesse que nous avons en Iran. L'Iran est un pays très riche, non seulement par pétrole et gaz, mais on a des minéraux très importants et riches de population. Une population très jeune, très instruite et hautement qualifiée. Toutes ces personnes qui sont à la fac en Europe, aux États-Unis, vous savez très bien qu'on a des Iraniens exilés ou qu'ils ont quitté l'Iran, qu'ils ont des postes très importants.
Très haut niveau.
C'est haut niveau parce qu'en Iran, ne le prenez pas parce que je suis iranienne comme prétentieux, mais en Iran, on est très instruit et hautement qualifié. Hautement qualifié, et on a des gens, ça c'est des richesses, cette jeunesse, c'est une richesse que le gouvernement, il pourrait très bien en profiter et de le mettre en œuvre pour remonter le pays. À la place de ça, la richesse pécuniaire du pays, ça va dans les subventions, tout le monde le sait, et c'est bien marqué partout, dans les subventions des attentats faits par le Hezbollah libanais, par le Hamas, par les Houthis, et toutes compagnies qui sont avec eux. tous ces organismes qui sont avec eux.
Alors, vous entendez par sous-pension des financements clandestins, comme secret.
Bien entendu, oui. C'est clandestin parce que nous, le peuple iranien, on est prise par l'embargo.
Oui.
Les étudiants, ça c'est une aparté, les étudiants iraniennes, il faut qu'ils passent, il faut qu'ils parlent le français niveau B1, je pense, ou A2, pour passer leur demande d'avoir des études à l'étranger. L'ambassade leur donne des visas étudiants, ça veut dire tout est régularisé et tout est bien. Mais quand ils arrivent en France, ils n'ont pas le droit d'avoir un compte bancaire parce que les Iraniens sont en interdiction de...
Oui.
Alors, comment voulez-vous qu'ils s'inscrivent? Ils viennent avec énormément d'argent liquide sur eux. À la fac, ils n'acceptent pas l'argent liquide. Ils veulent minimum, hein, ils veulent payer leur loyer. Il faut que l'argent arrive sur leur compte. Alors, je vous dis pas comment les familles font par les billets de par les bureaux d'échange iraniens, qu'ils ont des bureaux d'échange en Turquie, en Allemagne et tout ça. Oui. Et je vous dis pas toutes les démarches qu'il faut le faire en plus pour que les jeunes puissent avoir l'argent ici. Et après, pour le compte bancaire, c'est encore un autre combat. Ils essayent, ils y vont. Certains banques, ils acceptent, d'autres non. Et bon, par le biais de la banque qui n'acceptait pas, il faut qu'ils leur donnent à l'écrit, qu'ils ne le font pas. Et en allant avec cet écrit, certains, ils le font, bien entendu. Ils vont à la Banque de France et c'est avec l'intervention de Banque de France qu'ils peuvent ouvrir un compte. Mais je peux vous dire, c'est un combat très, très dur pour un étudiant qui a 19 ans, qui a 20 ans, qui a 21 ans,
bien sûr,
qui arrive. On essaye de les aider comme on peut. Mais bon, c'est pas toujours évident non plus de la part de nous, les anciens iraniens qui sommes en France, partout dans toutes les villes.
Donc c'est une double peine. Non seulement ils ont ce gouvernement qui est complètement pour une jeunesse, c'est terrible d'être qui est presque interdite de vivre sa jeunesse, quoi. Et en plus il y a tous ces revendications, enfin toutes ces réglementations qui font que les jeunes, ben il faut qu'ils en veuillent, hein, pour faire les études.
Franchement, oui, franchement, et ils en veulent. Ils en veulent. Oui. Je suis fière d'eux. Si vous saviez, ils sortent tous en doctorat, mention bien. Ça me donne la chair de poule parce que je suis fière d'eux. J'étais invitée par plusieurs présentations de doctorat et je suis vraiment fière d'eux. Ils trouvent un job, ils se débrouillent pour que les familles ne soient pas obligées de payer l'argent, pour que eux ils se débrouillent tout seuls. Et faire des études, il faut le faire. Et surtout la langue française, qui n'est pas une langue parlée en Iran, c'est l'anglais. Ils arrivent tous avec une anglais assez construit, assez soutenu, mais malheureusement, il faudra qu'ils parlent le français pour suivre les cours.
Oui.
Alors, il faut dire qu'il y a ça. C'est une jeunesse qui, quand il est allé dans la rue, de dire « je voudrais ma liberté », pour brûler une poubelle, un gamin de 16 ans a été exécuté. Et ils n'ont pas rendu… Alors, l'exécution, c'est une part, mais ils ne rendent pas le cadavre des jeunes à leur famille pour faire leur deuil.
Horrible. Horrible.
Ils leur donnent l'adresse d'un terrain. Vous y allez, quelque part là-bas, votre enfant est enterré.
C'est terrible.
Surtout, est-ce qu'il a été enterré? Parce que, bon, quand même, les familles en Iran, ils ont des rituels musulmans. Il faut que le cadavre soit emballé dans une sorte de tissu spécial blanc. Vous savez, il y a des rituels musulmans que la famille, bon, il tient de le faire pour son gamin. Il faut que ça soit lavé de telle manière, après emballé dans les tissus blancs et après enterré. Ils ne savent pas du tout si ces rituels a été respecté ou non. Et imaginez-vous, pour le vrai Iranien, qui est un vrai musulman, parce que eux, ils sont pas pour moi le gouvernement, un vrai musulman qui tient à ces rituels, non seulement on lui laisse pas faire le deuil de son gamin, on lui laisse pas respecter la rituel à laquelle il croit.
Et oui.
Vous voyez, j'aimerais bien que les gens réfléchissent un petit peu sur quoi, dans quelle ambiance on vit en Iran.
Tout à fait.
Dans quelle ambiance on vit.
Et puis, bon, j'ai envie de rajouter que ce qui est quand même ce que je constate, moi, un peu autour, puisque je m'intéresse quand même particulièrement à l'Iran, c'est que les gens, on parlait tout à l'heure d'exécution et tout, les gens ne sont pas au courant.
Non.
Les gens ne sont pas au courant qu'il y a autant d'exécutions, autant d'emprisonnements, autant de supplices. Il y a des gens qui sont suppliciés. Enfin, tout ça, ça ne ressort pas parce que de toute façon, l'État contrôle tout, hein, là-bas. Il y a un contrôle de l'État complet. Voilà, du Mollah. Voilà. Alors, ce que je vais, c'est un peu. Je vais proposer une petite pause musicale, donc que tu vas nous présenter, Mitra, tu nous expliques voilà ce que c'est que ce morceau qui moi me va droit au cœur.
Alors j'espère que je pleure pas. Baroyer, c'est une chanson qui a été chantée par Shervin, un jeune homme qui a lancé un jour un message sur je crois sur Insta, et il a demandé aux jeunes: dites-moi pourquoi vous êtes pas contente que vous êtes dans la rue. Baroyer, ça veut dire c'est pour. Baroyer, ça veut dire pour. Alors, pourquoi vous êtes mécontente? Il y en a un qui a écrit pour le gamin afghan qui est dans la rue. L'autre, il a écrit pour le chien errant qui est dans la rue. L'autre qui a dit pour la vieille qui n'a pas à manger qui est dans la rue. Chacun a donné son avis. Pourquoi moi je suis dans la rue? Et lui, il a eu cette idée géniale de faire cette chanson Baroyer. Alors, il chante pour ça, on est dans la rue. Et c'est une chanson. Alors, après chanter cette chanson, après la chanson qui est sortie, Shervin il a été emprisonné. Mm. Et je pense que comme elle a eu le prix de comment il s'appelle, ce prix de musique avare américaine, je pense. Mm-hmm. Il award, a eu un award. Prix award. Américain, et je crois qu'il l'a eu pour sa chanson. Ça l'a sauvé la vie. Ils l'ont pas exécuté.
Voilà.
Mais il a continué son emprisonnement. Et si ma mémoire est bonne, l'année dernière, il a été libéré. Encore, il a fait sortir d'autres chansons pour ça, mais c'est un jeune homme qui l'a chanté. Mais c'était une idée qui est partie d'abord par ça. Pourquoi vous êtes dans la rue?
Donc voilà. Bonne écoute et ne pleurez pas surtout. À tout à l'heure.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
Eh bien, bonjour à tous. Nous revoilà dans le studio de FM+, toujours aussi bien accueillis. Et je suis toujours en compagnie de mon collègue Michel Collomb. Et nous recevons aujourd'hui donc Mitra, qui est membre national du collectif Femmes, Vie, Liberté, dont nous venons de parler assez longuement, en expliquant un petit peu tout ce qui s'est passé. Mitra nous a éclairé un peu sur tout ça, puisque on a conclu en disant qu'effectivement, l'information sur l'Iran circule très peu, et c'est pour ça que je suis très contente qu'on puisse se faire aussi cet éclairage aujourd'hui. Alors Michel, on était un petit peu tout à l'heure, on était un peu sur la non-intervention des pays.
Alors voilà, le problème c'est que maintenant on est dans une situation qui est un peu paradoxale, c'est que bien sûr, ce gouvernement iranien, il est injuste, il est incapable de vraiment satisfaire la population. Mais aujourd'hui, après ce qui vient de se passer, on a plutôt une sorte de volonté de vouloir le soutenir, parce qu'on considère qu'il n'est pas traité de façon juste, de façon proportionnée, en particulier par Trump, par les Américains.
Alors, moi, je ne sais pas la façon juste pour vous, c'est exactement quoi. Et est-ce que ce gouvernement, ça fait 46 ans, il est juste avec le peuple de son pays? Alors, de toute façon, je ne crois pas du tout qu'il tienne le peuple iranien comme le peuple de son pays, parce que pour lui, même avant-hier, il a dit, de toute façon, l'Iran, c'est pas important, c'est Palestine qui est important. Je n'ai rien contre les Palestiniens, que ça soit clair et net. Mais quand le gouvernement d'un pays dit ouvertement que c'est Palestine qui est important, après, on ne peut pas dire que c'est le gouvernement d'Iran. C'est un gouvernement, ça fait 46 ans. C'est un gouvernement totalitaire, tout le monde le sait. Depuis qu'il a pris le pouvoir en 79, première chose qu'il a fait, il a enquiquiné, excusez-moi le mot, il a enquiquiné Saddam, et c'est en l'année 80, la guerre a éclaté entre l'Iran et l'Irak. Ça a duré 10 ans.
Beaucoup de pertes, je l'ai vécu en direct parce
que ma ville, Ahvaz, c'est dans la région de Khuzestan. Je suis à 200 kilomètres, j'habitais à 200 kilomètres de Bagdad. Et Ahvaz, Abadan, Khorramshahr, c'est 3 villes qui ont été pendant 10 ans bombardées en direct. À midi, j'avais 19 ans, 20 ans, j'ai eu mon bac, je travaillais en tant que dessinatrice en bâtiment à l'époque, chez un architecte au centre-ville de ma ville. À midi, quand je sortais pour prendre le taxi, venir à la maison, et à 14 heures, je devrais retourner au travail, il y avait que des soldats en ville. Je voyais que des soldats, et il y avait je me rappelle toujours, un policier sur le carrefour que je sortais pour prendre le taxi. Et il me disait, mais jeune fille, qu'est-ce que tu fais là? Et je me rappelle toujours, tous les jours, c'est lui qui prenait le taxi pour moi et lui disait, j'ai ton numéro et j'ai cette fiche si je le vois pas ce soir. Ici, c'est toi, parce qu'il y a eu énormément de fous. Avec des taxis, il faisait un chaleur, il n'y avait pas beaucoup de femmes, il piquait
violait des femmes,
tout ça. Pour vous dire, j'étais en direct et je l'ai vécu 6 ans, cette guerre. Alors, plus atroce, ça ne pourrait pas exister. Quand à 20 ans, à 21 ans, vous voyez qu'il y a une ambulance qui passe devant vous, les portes sont ouvertes parce qu'il y a 4-5 cadavres qui est derrière, parce qu'ils pouvaient même pas fermer les portes de l'ambulance. Vous pouvez pas passer indemne. Maintenant, à mon âge, à 63 ans, bon, je le dis, à 63 ans, à mon âge, j'ai toujours ces images devant moi. Une guerre est affreuse, mais la guerre est toujours provoqué par l'Iran, par le gouvernement d'Iran, gouvernement totalitaire qui vit avec la guerre. Pourquoi? Parce qu'après 10 ans de guerre,
il s'enrichit au détriment de son peuple.
Exactement. Il s'enrichit et c'est toujours l'excuse. Oui, mais on a passé une guerre. Et là, la guerre est exactement, c'est Israël qui est allé, qui a envoyé première bombe en Iran. Mais c'est, pour moi, en tout cas, c'est pas celui qui attaque au premier qui est fautif. Bien entendu, le gouvernement, ça fait 40 ans qu'il est en train de menacer les Israéliens. 40 ans. Si tu es sérieux, si vraiment tu veux rayer l'Israël comme vous dites, sur la carte, ce qui moi, je me demande comment ils peuvent se permettre de dire ça. En tout cas, si vous êtes sérieux, vous vous mettez en silence, en radio silence, vous faites ce que vous voulez faire, vous vous enrichissez, et après le moment venu, vous allez attaquer. Ça fait 40 ans qu'ils disent ça. Mais bien sûr, l'État d'Israël, quand il a vu qu'ils arrivent à 86%, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué. Ça veut pas dire que je suis pour Israël, que ça soit clair et net, que je suis contre Palestine, que ça soit clair et net. Ça n'a rien à voir avec le problème qui est entre Israël et Palestine, que je suppose, je ne suis pas géopoliticienne, je suppose, les Palestiniens, ils ont leurs droits aussi.
Bien sûr.
Et leurs raisons. Ça, je ne suis pas du tout contre ça. Seule chose que je dis, je suis une Iranienne et mon peuple, les Iraniens, ça fait 46 ans, on est torturés par ces mots-là.
Régime, oui.
À cause de ce régime, les gens ne sont plus musulmans en Iran. On ne croit plus en rien. Il a détourné tous les croyances des gens là-bas. Il y a plus en plus des gens qui vont vers zoroastrisme ou sur catholicisme.
Catholicisme,
oui. Et il y en a, ils ont détourné de leurs croyances. Et je vous parle pas du nombre de athées que maintenant on a en Iran.
Oui.
Et vous savez, la religion, je ne suis pas très religieuse, mais je pense que religion, c'est quand même par les principes. Ils donnent des principes aux gens, et c'est important pour certains.
Oui, bien sûr.
C'est pour leur éducation. Il y a des bons principes dans une religion. Qui pourrait sauver beaucoup des gens qui sont perdus. Qui sont perdus ou parce qu'ils n'avaient pas une enfance heureuse, n'importe quoi. Mais à une époque, je me rappelle, la religion, en tout cas, ils pourraient les réunir et ils pourraient leur donner des principes. Maintenant, ça n'existe pas. Ça n'existe plus en Iran, ça. Et cette guerre, c'est... Le résultat direct de toute l'action du gouvernement d'Iran. C'est des mollahs qui sont le responsable direct de cette guerre.
Oui.
J'ai seulement ça à dire. C'est malheureux de vivre une guerre. Il y a des tués, certes. J'ai eu samedi matin, j'ai eu ma sœur au téléphone. En même temps qu'on parlait, il m'a dit, ils sont arrivés, il y a les bombardements, je raccroche, je t'appelle après. Après, je lui ai parlé, il m'a dit, non, c'est les casernes. C'est une caserne dans ma ville, qui est de l'autre côté, le quartier, de l'autre côté de notre quartier. Il m'a dit, c'est eux, ils attaquent ça. Jusqu'à maintenant, d'après ce que j'ai su, ils attaquent les endroits des stratégiques pour le gouvernement Jomhuri Islami. Ça n'a pas été directement les populations, mais dans n'importe quelle guerre où on attaque, il y a toujours des collatéraux qui vont être attaqués. Alors, les gens m'ont dit, il y a des morts. L'année dernière, 1000 exécutions. C'est des chiffres, hein. 986
c'est ça qu'on
ne sait pas,
Michel.
C'est pas des chiffres que je le sors.
C'est des jeunes.
De janvier cette année jusqu'à maintenant, c'est 700 exécutions. 600 ou 700, 600 peut-être, 600 exécutions depuis janvier. En 2019, quand les gens ils sont sortis pour mouvement verte, je pense, dans la rue, parce que l'essence a été augmentée 0,89 centimes de plus. Quand je dis 0,89 centimes, pour quelqu'un qui gagne 220 euros, parce que c'est ça les revenus des Iraniens de majorité, 220 euros, 0,89 centimes, c'est beaucoup. Et pourquoi c'est beaucoup? Les Gilets jaunes, ils devraient leur en parler, ça, cette histoire. Et 0,89 centimes, pourquoi c'est beaucoup? Parce que les jeunes, ils travaillent deux ou trois endroits différents pour pouvoir gagner un peu d'argent. De 5 heures du matin, 6 heures du matin, ils sont dans le bureau jusqu'à 14 heures. À partir de 14 heures, avec leur voiture, ils font taxi jusqu'à minuit.
Oui.
Et de faire le taxi, il faut, et avec 220 euros, on peut pas payer 0,89 centimes de plus sur le litre d'essence. Et pendant ce mouvement, en 3 jours, l'État d'Iran a tué 1300 Iraniens.
Et j'ai entendu hier, je te coupe la parole, j'ai entendu hier qu'il y a eu plus de 400 arrestations pour espionnage.
Exactement.
Ça veut dire que ce seront des gens en prison et dont certains vont encore mourir.
Probablement.
Être exécutés.
Alors, allez prouver que c'est pas vrai. Tout ce qu'ils ont profité que l'Israël a dit que j'ai des espions. Alors maintenant, ils sont dans la rue à chaque carrefour à Ispahan. Ça, je l'ai directement hier avec quelqu'un d'Ispahan qui nous a dit. À chaque carrefour, ils ont placé 3-4 postorons ou ça. Et dès qu'il y a des gens qui passent, allez, hop, on arrête. Et les jeunes, vas-y, ils regardent sur les réseaux sociaux. Ah non, vous êtes des espions. Mm-hmm. Ah, dès qu'ils voient quelque chose.
Non, c'est pour ça, c'est vraiment cette privation de liberté dont nous n'avons pas idée. Moi-même, qui suis allée deux fois en Iran, mais la dernière fois, c'était il y a assez longtemps, je me rends compte, par les témoignages que je reçois ou de ce que dit aussi Mitra, je me rends compte que ça a empiré, c'est encore pire qu'avant. Moi, je suis allée à une période où il y avait quand même, c'était plutôt Roumanie, d'ailleurs, mais il y a eu un moment où il y a eu un petit peu, mais c'est terrible, terrible, cette privation de liberté. Donc, effectivement. Alors, moi, je voudrais vous lire simplement. Donc, je suis évidemment en communication, vous le savez, avec des Iraniens. Hein, et une Iranienne, une jeune Iranienne qui est chère à mon cœur, qui me parle qui vit en Europe, hein, et qui me dit que sa tante, qui perd la vue, ne peut pas quitter Téhéran. Ça a été bombardé à côté de chez elle, mais elle n'a pas vraiment peur. Et elle me dit à la fin, elle me dit, je fais partie des gens qui ont espéré que le gouvernement illégitime, donc pour les Iraniens, ce gouvernement est illégitime. Il faut le savoir, ça aussi. Parce que nous, on n'est pas dans cet esprit-là. Se rendent et que tout ça n'arriverait pas au peuple et au pays. Mais ils ont gardé les deux, le peuple et le pays en otage. Le pays est si le régime, le pire est si le régime reste. C'est un scénario impensable pour moi. Voilà, je voulais
c'est
vous dire ça.
C'est vraiment le pire.
Voilà, donc pour dire, voilà, le vécu des gens, c'est vraiment, c'est pour ça qu'il y a ce que nous, on voit de l'extérieur de notre démocratie, et puis il y a ce qui se vit de l'intérieur, et c'est vrai que le peuple est très partagé, effectivement, on les attaque, bien sûr. Il y a des attaques, mais c'est des attaques ciblées. Il n'y a pas eu d'hôpital, l'hôpital qui a été bombardé, c'est par l'Iran qu'il a été bombardé en Israël. C'est pas Israël qui a bombardé des hôpitaux. Justement. Voilà, donc c'était pour dire ça, Michel. Alors, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose pour conclure, toi, de notre entretien avec Mitra.
Eh ben, voilà, il faut que les gens s'informent pour comprendre un peu la situation de l'Iran et s'interrogent également sur
pourquoi on est content qu'il y a l'Israël qui a bombardé.
Alors, ouais, on peut espérer, voilà.
Non, on n'est peut-être pas content.
Les trois premiers jours, les gens, ils étaient dans la rue en train de...
Ça, c'est fini. Donc, bon, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, Michel, de ta participation. Merci, Mitra, d'être venu témoigner.
Merci beaucoup.
Allez, à la semaine prochaine.
FM+.